Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous et nous revoilà pour une émission Carnet de route, aujourd'hui en compagnie de Chloé. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes de s'exprimer en toute liberté pendant une heure. Pour cela, on s'est vu il y a quelques jours pour faire une préparation et aujourd'hui, on se retrouve dans les studios de Samarcande pour l'enregistrement de Chloé, à qui je dis bonjour.
Bonjour.
Chloé, je suis heureux de te voir ici dans notre studio.
Pareillement.
Et comme je viens de le dire, Chloé, on s'est vu il y a quelques jours. Pour faire une préparation, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment s'est passée cette préparation et ce que l'on a fait à ce moment-là ?
Oui, c'était intéressant. Enfin, on a abordé plusieurs sujets. Et ça m'a permis d'un peu me délier et de découvrir que j'avais aussi des opinions, bizarrement.
Tu l'as découvert à ce moment-là ?
Bah, disons, ça m'a permis de faire sortir des trucs qu'en fait je pensais, mais dont je m'étais jamais vraiment posé la question. Hein.
Pour ta présentation, Chloé, tu es une jeune fille de 15 ans qui vit à Bruxelles. Et qui veut se diriger vers des études artistiques.
Oui.
Et alors, dans tes sujets, parce que lors de la préparation, on a essayé de définir un petit peu des choses qui t'intéressaient, 3, 4, 5 choses. Et alors, moi, j'ai retenu l'art et l'imagination et le rejet, en gros. Mais je vais t'aider.
D'accord.
Pour commencer, pour parler de l'art et de l'imagination, parce que c'est quelque chose qui t'environne beaucoup, je pense. Hein.
Oui, quand même.
Et tu as 15 ans. Pour toi, qu'est-ce que ça signifiera d'être une artiste ? Ou te considères-tu déjà comme une artiste ?
Et déjà, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, je fais du mieux que je peux. Et pour moi, être une artiste, c'est simplement pouvoir exprimer des choses et simplement faire des choses belles.
Est-ce que c'est aussi un état d'esprit ?
Oui, beaucoup. Hein. Disons, moi je m'éloigne un peu du point de vue matérialiste, c'est un moyen d'expression... Déjà, l'art en soi, ça sert à rien, donc c'est tout le contraire du matérialisme. Enfin, disons, ça sert au niveau spirituel, c'est de nourriture et tout, c'est le fait de voir quelque chose de beau, moi, en général, ça m'émeut beaucoup. Hein. Mais c'est... D'un point de vue matérialiste, c'est vrai que ça sert à rien.
Et qu'est-ce que quand tu dis autour de moi ce que je vois qui est beau dans tes expériences, un exemple au niveau artistique de quelque chose qui t'émeut vraiment beaucoup ?
Un exemple... ça peut être n'importe quoi, aussi bien une lumière que je trouve belle en été dans certains paysages, d'endroits où on voit par exemple la lumière à un certain moment de la journée qui sublime le lieu, rend de manière magnifique. Ça peut aussi être une peinture, ça peut être plein de choses.
Et la beauté de l'âme ? Je t'avais dit qu'on serait sérieux. Hein, genre.
La beauté de l'âme, déjà, je la vois pas, donc je veux pas dire si elle est belle, mais à force de fréquenter quelqu'un, sûrement que c'est un truc qui doit... C'est quelque chose qui se dégage, quoi.
Alors, il y a une phrase que j'ai retenue de toi, Chloé, c'est « J'intériorise beaucoup, mais je suis aussi extravertie ».
Disons ce que je fais, toutes les choses qui m'arrivent, les peines que je peux ressentir et tout, c'est quelque chose que je ne montre jamais, que j'intériorise toujours, mais par contre... Toutes mes émotions, on va dire, positives et tout, mes avis et tout, en général, je suis... Pour ça, je suis assez extravertie et je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et tout, et rencontrer de nouvelles personnes. Et pour ça, je suis pas du tout timide, j'ai aucune gêne pour m'exprimer face à quelqu'un que je connais pas.
Et cette peine que tu peux parfois avoir, puisque celle-là, tu la gardes ou bien elle ressort d'une certaine manière ?
Oh, elle ressort toujours, que ça soit quand je dessine, quand j'écris ou même quand je pense simplement. Hein.
Tu crois que c'est pas... Il ne faut pas garder ça en soi ?
Moi, disons, d'une certaine manière, je le garde, mais c'est sûr que quand je dessine ou que je peins ou que j'écris, ça ressort toujours d'une certaine manière et ça se sent à travers mes dessins.
Je sais que maintenant tu lis un peu moins, mais prenons cette phrase. Je lis plus que je parle.
Disons, il y a quelques années, j'étais vraiment très réservée, vraiment, je cultivais vraiment mon univers intérieur au détriment de l'univers extérieur, de ce que je montrais. Donc ça, j'étais une fille hyper réservée et je sais que je lisais beaucoup et en fait que je faisais que ça. Et oui, que donc, j'étais pas très loquace non plus.
Et à quel âge tu as commencé à lire autant ?
11-12 ans.
Et qu'est-ce qu'il est resté de toutes ces lectures ?
Ben, je pense que d'une certaine manière, ça a dû m'enrichir. Je pense que quand je parle, ça doit être un truc qui doit se pressentir. Enfin, en tout cas, j'espère.
Le fait de parler, tu penses que tu as un vocabulaire qui est...
Oui, déjà, niveau vocabulaire, je pense que ça m'a permis d'un peu m'enrichir. Même si maintenant, je suis moins dans ça, et que je suis plus manuelle et tout et tout.
Par rapport au dessin, par exemple.
Oui. Hein.
Et j'avais envie de te poser une question. Je ne t'interromps pas. Hein.
Non.
Est-ce qu'il n'existe pas d'autre manière que la parole pour exprimer des sentiments ?
Bah, bien sûr. Je veux dire, que ça soit par le biais de l'écriture ou les écrivains peuvent faire passer plein de choses, et ceux qui se font publier, mais montrer au grand jour tout ce qu'ils pensent, leur vision sur la vie, que ça soit par des dessins où on peut clairement voir dans un tableau l'expression qu'il exprime. Oui, il y a plein d'autres moyens d'expression.
Est-ce que c'est important, ces différences ? Cette manière de ne pas être juste dans la parole, mais de pouvoir exprimer les choses autrement.
Je pense que oui.
Est-ce que ça s'apprend à l'école, ça ?
Non.
Parce que tu n'es pas encore dans des études artistiques, hein ?
Non, à l'école, c'est oui, on apprend à parler, à apprendre, à avoir un esprit critique, mais je pense que les moyens d'expression, la parole, ça leur suffit.
Et est-ce que cela... Comment ça évolue, à ton avis, quand on devient plus grand, tout ça ? Le fait d'être en retrait peut-être par rapport à la parole et de chercher dans le dessin, l'écriture. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut rester tout le temps ? Et est-ce que c'est possible d'en faire un monde à soi ?
Oui, ben j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on cultive son monde intérieur, plus on devient distant avec les autres. En tout cas, je vois les vieilles personnes et tout, ils ont tendance à devenir misanthropes à la fin.
Et toi, tu en penses quoi ?
Ben, d'une part, je trouve qu'ils n'ont pas tort, mais voilà, après, faut faire...
C'est un équilibre.
Oui, enfin, c'est un équilibre. De toute façon, y a pas de bien sans mal, j'ai envie de dire.
Chez tout le monde, chez chacun d'entre nous.
Oui.
Dans la société.
Oui, mais des abrutis, si on peut dire. Mais je pense qu'on a un peu partout. Le tout, c'est de vivre avec. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il y a une mentalité générale de l'espèce humaine qui consiste à s'auto-détruire, qui est aussi très présente.
Et cette impression, c'est quoi ? C'est l'information que tu as autour de toi ? C'est...
Vous n'avez qu'à lire les actualités, on ne peut pas ouvrir le journal sans avoir une guerre quelque part, une guerre de religion par là, des attentats par-ci, c'est omniprésent.
Et pour revenir sur toi, enfin sur l'adolescente que tu es, en parlant de bien et de mal, est-ce que tu as l'impression parfois de devoir te dépatouiller de ce côté bien et de ce côté mal en toi, à 15 ans ?
Ça veut dire quoi, se dépatouiller ?
S'épatouiller, c'est de mettre de côté des choses, ou essayer de s'équilibrer.
Oui, mais en fait, j'ai tendance à être une personne un peu extrême. Hein. J'ai un côté lunatique, enfin... En général, mes deux côtés, ils sont jamais très équilibrés, ça c'est certain.
Mais tu n'en souffres pas.
Non. Les personnes, ils me prennent comme je suis, et ceux à qui ça plaît pas, tant pis, quoi.
Yeah. petit studio de Samarcande, en compagnie de Chloé, après avoir écouté ici, c'était...
Une léchette de Epica.
Ça déménage, hein.
Oui, c'est du métal, hein.
Mais c'est du métal symphonique.
Symphonique, oui.
Et la différence, c'est quoi, ce métal symphonique?
La différence, c'est qu'il y a un côté symphonique, effectivement, et vous avez remarqué que les voix, en général, ça fait très opéra et qu'il y a un côté très lyrique, hein. Et c'est ça qui le différencie d'un heavy metal ou d'un death metal ou de ce genre de choses.
Parce que les voix sont parfois un petit peu différentes de celles-ci. Hein.
Oui.
Et dans ces paroles, est-ce que tu as retenu quelque chose?
Si on prend les traductions, il y a un passage ici qui dit « La liberté pour moi est tout ce que je recherche vraiment, ce dont j'ai besoin. Donne-moi le pouvoir de m'échapper. Je ne peux pas tenir le coup plus longtemps. Mon temps est venu pour finir tout cela. »
La liberté, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi dans ce passage-là?
La liberté, dans ce passage, on voit clairement qu'il s'agit de la liberté qu'on acquiert après la vie, donc dans la mort. Hein.
Est-ce qu'on ne peut pas l'acquérir avant de mourir?
Ici, dans le passage, on voit clairement que cette chanson, elle met en scène quelqu'un qui se sent emprisonné dans sa vie, qui ne sait pas vivre pleinement et qui, en fait, est impatient de mourir pour enfin acquérir la liberté qu'il ne va plus avoir de son vivant.
Et qu'est-ce que ça évoque chez toi, en miroir, tu ne te retrouves pas dans ce qu'elle dit?
Non, mais je comprends tout à fait.
Et autour de toi, Chloé, est-ce que dans tes amis ou des connaissances, est-ce que tu as l'impression que les jeunes, de manière générale, ils peuvent éprouver ce sentiment-là?
Oui, sans doute.
Mais c'est pas fréquent.
Ça dépend, il y a des personnes chez qui c'est ça, mais... J'ai l'impression que c'est plutôt une prise de conscience qu'on acquiert quand on a genre 40-50 ans. Et là qu'on se rend compte, en fait, pourquoi est-ce que j'existe, moi?
Peut-être que c'est aussi une accumulation de situations qui sont périlleuses ou difficiles.
Oui, sans doute aussi.
Mais quand tu parles de personnes plus âgées, de 40, et quand tu me dis que parfois chez les adolescents, ils éprouvent, alors que leur existence est beaucoup plus courte, comment est-ce possible?
L'adolescence, en tout cas, moi, c'est une question que je me pose parfois. Enfin, c'est toujours la question un peu, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, hein?
Et ça aboutit à quoi, en général, ce questionnement?
Ça aboutit à ce... Je suis là parce que je suis là, et parce qu'il y a des gens qui m'aiment, et que non, je peux pas me suicider tout de suite, parce qu'il y a encore des gens qui seraient qui tiennent à moi.
Parce que tu as des belles choses à faire aussi.
Ah, ça, c'est à voir, hein.
Et la liberté, autrement que dans ce texte-là, qui est la mort ou le suicide... Mais la liberté, est-ce que tu y penses aussi? Dans ta manière de penser, dans ta manière d'envisager ton avenir?
Pour moi, c'est le fait de ne pas se sentir oppressé par la société, enfin la société actuelle qui veut qu'on consomme, qu'on travaille pour sortir le pays de la faillite. Enfin, oui, bon. Hein.
Merci, Chloé. Revenons à nos moutons, comme on dit. À propos du sentiment humain, tu avais parlé, en préparation, tu m'avais annoncé plusieurs sujets que tu as un peu abandonné, mais je t'avais dit que je le garderais quand même juste pour te rappeler quelque chose que tu avais dit. Et c'était à propos du sentiment humain et général. Et justement, tu viens de le dire, c'était qu'est-ce qu'on fout là? Mais tout le monde est censé se poser la question, mais pas trop tôt. Et moi, par rapport à toutes ces questions, ce que j'ai noté, c'est est-ce que tu n'es pas en train de vivre un sentiment qui touche tous les jeunes? Est-ce que c'est pas un processus normal à l'adolescence, quand on grandit, de se poser...
Sans doute, mais il y en a qui ne savent jamais de se poser la question.
Tu crois
je pense que chaque personne doit au moins se poser cette question une fois dans sa vie, parce que c'est vrai que... En fait, pourquoi on existe?
Oui. Et tu as l'impression que si tu dessines et si tu... On fait une carrière, enfin carrière dans le sens où c'est quelque chose que tu vas constamment aborder, y réfléchir, c'est des réponses peut-être? C'est des réponses peut-être?
Des réponses, j'en sais rien. Moi, je sais pas pourquoi je dessine. Enfin, chez moi, c'est un mécanisme naturel, on va dire. Mais non, des réponses... Dans mon cas, je pense pas. Maintenant, peut-être que je me trompe. Hein.
Est-ce que tu trouves le monde étrange?
Non, je le trouve prévisible.
Mais là, je vais te demander des précisions.
J'ai l'impression qu'en fait... les réactions des gens, la plupart du temps, c'est prévisible. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est une impression que j'ai.
J'avais une autre petite question. Le sentiment de crainte ou de sécurité? Est-ce que toi, tu as un sentiment de crainte?
Je n'ai jamais peur.
Tu n'as jamais peur. Est-ce que tu vis, est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi dans un milieu privilégié?
Oui, quand même.
Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un milieu privilégié ?
Ça veut dire vivre avec des personnes qui, la plupart du temps, ou alors ils font bien semblant, nous aiment. Vivre déjà niveau financier, déjà l'endroit du globe où je suis, c'est vraiment un endroit hyper privilégié. Et puis j'ai accès aux études et à tout ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas d'une bonne partie de la planète.
Et ça, ça participe du sentiment de bien grandir.
Oui. Et moi, je ne pense pas à qu'est-ce que je ne pense pas chaque jour, ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger demain et tout. Moi, j'ai pas ce genre de préoccupation là, donc je peux en avoir d'autres, comme en l'occurrence tout ce qui est artistique. Parce que mes besoins, à partir du moment où nos besoins matériels sont satisfaits, là, on peut se tourner vers autre chose.
Poison. Et là, tu peux me rappeler le nom de la chanteuse ?
Tarja.
Tarja. Et c'est toujours du métal symphonique ?
Oui. C'est l'ancienne chanteuse du groupe Nightwish, qui est un groupe connu de métal symphonique.
Et elle s'est séparée de ce groupe, c'est ce que tu m'avais dit.
Oui, les membres l'ont virée du groupe.
Je vois que tu as souligné quelque chose dans la traduction de cette chanson.
Oui, un passage. Je voudrais t'enlacer, mais mes sens me disent d'arrêter. Je voudrais t'embrasser, mais j'en veux trop. Je voudrais te goûter, mais tes lèvres sont un poison vénéneux. Je ne veux pas briser ces chaînes, poison, oh non, coule dans mes veines, brûle dans mes veines, c'est un poison.
Le poison, c'est de dépasser la tentation pour le faire.
Le poison, dans ce cas-là, c'est l'amour.
Tu vois les interprétations des adultes, hein, alors que c'est plus simple voilà, que ça. Tu ne penses quand même pas que l'amour peut être un poison ?
Dans certains cas, oui.
Déjà à 15 ans ?
Oui.
On ne peut pas y échapper ?
C'est difficile.
Pendant la musique, Chloé, tu m'as rappelé que tu voulais encore réagir, il manquait quelque chose hein, voilà, à des sujets d'avant la musique. Et c'était tu me parlais du droit de grandir normalement, et tu me disais, j'ai la chance, moi ici en Belgique, à Bruxelles, de vivre, le droit de grandir normalement, mais d'autres n'avaient pas ce droit.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux donner un exemple ?
Eh ben, par exemple, moi je sais qu'enfin, à 22 ans, je serai peut-être toujours chez mes parents, enfin, j'aurai le temps de grandir tout à fait normalement, de m'épanouir, alors que... Il y en a d'autres un peu aux quatre coins du monde, c'est allez hop, la puberté, tu es soit un homme, soit une femme et c'est fini.
C'est comme si c'était une fonction.
Oui. Donc moi j'ai le droit de prendre le temps nécessaire pour grandir, de ne pas me presser. C'est un droit qui est répandu dans le monde occidental, mais en tout l'Équateur c'est fini quoi.
Tu penses que pouvoir y réfléchir, c'est un luxe ?
Oui. Ben oui, avoir le droit de réfléchir, de penser à d'autres choses, de toute façon, c'est un luxe. Vu que je pense que je l'ai dit avant, quand on n'a pas tous les points de vue matériels à penser, par exemple, se nourrir, se soigner et tout, après, on peut penser à d'autres possibilités d'un niveau plus élevé.
Mais en même temps, je rebondis, c'est peut-être caricatural, mais sur nos sociétés plus occidentales, c'est... Enfin, sans faire de... C'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Il y a beaucoup de gens qui prennent par exemple des antidépresseurs ou certains états, c'est le taux de suicide qui est élevé, malgré tout, malgré le fait qu'ils
passent. Oui, ça c'est parce qu'ils sont compressés par la société qui leur demande de travailler, respecter la loi. Enfin, il y a des trucs tout à fait stupides. Et oui, ben, je pense que la société occidentale, c'est aussi un stress énorme.
Est-ce que toi, tu aimerais voir les choses changer dans le futur ?
Oui.
Est-ce que tu es consciente que tu portes ta voix, et que toute seule, est-ce que c'est possible de changer les choses toute seule ?
Non.
Et est-ce que c'est possible de changer les choses à travers l'expression artistique ?
Ça me paraît dur, mais oui, ça doit être possible.
Par rapport au dessin, si tu présentes tes dessins aux gens, tu ne vas pas faire du dessin politique, ou en combien même de la caricature ?
Ah, je peux toujours faire caricaturiste, hein, dans le genre Pierre Kroll.
Mais c'est surtout au niveau des émotions. Mais est-ce que les émotions touchées des gens, ça peut leur permettre de... Est-ce que ça leur apporte quelque chose ?
Mais de toute façon, il faudra toujours qu'il y ait des personnes qui travaillent et qui souffrent pour que d'autres puissent bien vivre et s'épanouir spirituellement. Donc ça, c'est un fait, je pense.
C'est difficile, c'est dur ce que tu dis, je trouve.
Oui, mais voilà.
C'est un peu une société d'esclaves aussi, alors, de gens qui profitent...
Bah, bien sûr.
C'est noir. Hein.
Si on mange des bananes en Occident, c'est parce que... C'est parce que sous l'Équateur, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui souffrent. C'est un exemple comme un autre, mais il faut qu'il y ait des gens qui souffrent pour que d'autres puissent bien vivre.
On va passer à un autre sujet, qui est le rejet. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était important pour toi.
Oui.
Et le rejet, c'était la peur de la différence. Mais ça fait partie un petit peu de ce que tu disais précédemment, hein, avec ces niveaux de... Dans la société, il y a des gens qui souffrent. Ici, c'est du regard des autres. Et tu prenais l'exemple, chacun d'entre nous est différent. Tu disais, voilà, on vit différemment, on pense différemment, on s'habille différemment. Et des gens ne supportent pas ça, apparemment. Ça, ce sont des marques visibles, hein, en général. Les roux, les homosexuels, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les gens qui ont peur, tu me disais que ça se sentait...
Oui, et quelqu'un qui aussi s'affiche dans un look particulier, qui ne plaît pas spécialement aux autres. Hein.
Et ça, c'est quelque chose que tu vis souvent, enfin que tu vois autour de toi.
Oui, que je vois, que je vis parfois, mais ça, je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, a déjà été au moins une fois victime de ça, je pense.
Et pourquoi tu penses que les gens s'acharnent sur ce qui est différent ?
Parce qu'ils en ont peur. C'est un lieu commun, mais bon, oui, je pense que ça doit être vrai.
Et pourquoi s'acharner sur celui qui a peur ? Pourquoi quelqu'un qui a peur ferait-il peur à quelqu'un d'autre ?
Parce que l'autre a peur d'être contaminé par sa peur, ou bien c'est simplement avoir le plaisir de se moquer d'une personne. Parce que ça aussi, c'est...
Et tu crois que c'est plus lié à l'adolescence, ce comportement, ou bien ça continue tout le temps ?
Bah, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a qui restent ados toute leur vie.
La xénophobie.
Oui.
Ou les peurs de... Ça rejoint un peu ce que tu disais, mais là, ça englobe... La xénophobie, c'est la peur de...
De xénophones.
Non,
non, des étrangers.
Des étrangers. Tu as la phobie de quelque chose. L'homophobie, c'est la peur de...
Les homos.
Prenons la peur de l'étranger. Est-ce que tu le sens à l'école ?
Moi, disons, je suis dans une école enfin très fondée sur le respect de la cohabitation et tout et tout. Donc dans mon école, honnêtement, j'ai jamais senti ça, il n'y a jamais eu de problème. Je pense que si on va dans des écoles un peu poubelles, à mon avis...
Mais est-ce qu'il y a des gens différents ? Est-ce que tu as l'impression que dans ton école, les élèves, les étudiants sont différents ?
Oui, mais ils ne montrent pas.
Mais ça peut être vestimentaire, ça peut être la couleur de la peau aussi.
Oui, mais ça, en général, il n'y a jamais de... Non, il n'y a aucun préjugé de ce type dans l'école où je suis.
C'est plutôt positif, ce que tu dis là.
Oui.
Mais quand tu dis les gens ne montrent pas trop leurs différences ou leur point de vue.
Oui, enfin là on parle des étrangers et tout. Ils sont peut-être étrangers physiquement, mais ils ont exactement le... Ils sont confondables avec un occidental ou avec n'importe qui. On ne sait pas vraiment les reconnaître à le... Ils se fondent dans la masse, hein, en général.
L'école, c'est quand même un endroit où tu es 8 heures par jour à peu près, hein.
Oui.
Donc, une grande partie de ton temps. Si tu t'inquiètes maintenant justement de cette... Je ne sais pas si c'est une montée de la peur de l'autre ou de l'étranger, mais tu le ressens fort. Hein.
Oui.
Si ce n'est pas à l'école que ça se produit, où tu ressens ce genre de choses, où est-ce que tu le ressens ? Dans le quartier ?
Ça donne des meurtres homophobes un peu partout dans les actualités.
Et de manière générale, les peurs de l'autre. Tu me disais qu'à travers la formation, tu entendais des choses et... Je te demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, au quotidien, t'inquiète, tu te dis où va le monde, ce genre de choses. Et à travers l'information, ce que tu me parlais, c'était de l'Afrique aussi. C'était, par exemple, quel genre de xénophobie ? Ça existe aussi en Afrique ?
À partir du moment où un noir est moins noir qu'un autre noir, là, c'est sûr qu'en général, ça dégénère. Enfin, je pense, d'après ce que j'ai appris. Hein. En Ouganda, là, je pense que c'est les homos qui portent un peu le chapeau. D'ailleurs, j'ai appris que récemment, il y avait une loi qui légalisait la peine de mort pour homosexualité, qui a été stoppée, mais vraiment de justesse.
Et tout ça te fait peur ?
Oui.
Avec tes yeux d'une ado de 15 ans, tu penses que quelque chose attise cette haine de l'autre et de la différence ?
La peur.
Et tu m'as parlé de religion aussi ?
Oui. La religion, c'est un peu à la base de tout. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ça donne aux gens une manière de réfléchir, et les gens s'enferment dans cette manière de réfléchir, au final, ils sont plus capables de penser par eux-mêmes. Hein. C'est Abemus Papa, mais voilà, quoi, c'est lui qui détient la vérité vraie. Hein.
Et tu as l'impression que ce sont les religions qui attisent cette haine de ce qui peut se produire en Ouganda, par exemple ?
Oui, parce qu'à partir du moment où c'est poussé à l'extrême, forcément, que c'est... Si on prend toutes les paroles de la Bible au premier degré...
Tu en veux aux religions, j'ai l'impression. Hein.
Oui.
Et moi, tu sais, je suis assez étranger, hein, en fait, aux religions, quelles qu'elles soient. Mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de penser que ces textes... Je te lis ça comme je l'ai noté. Hein. Ce sont des textes anciens qui influencent plus de la moitié de l'humanité. Pas un
malheureusement.
Mais dans ceux-ci... Dans ces textes-là, il me semble qu'on parle quand même de réflexion sur l'homme pour qu'il apprenne à s'élever et à être meilleur.
Oui, il y a aussi ce côté-là. Mais ça, je pense que l'homme est capable de faire ça tout seul. L'homme, il peut avoir sa propre manière de penser, il n'a pas besoin d'aller shipper des idées dans toutes les religions qui existent déjà.
Mais à quoi servent les religions, à tes yeux ?
Eh ben, je pense qu'elles servent à rassurer l'homme, à se... Parce qu'à partir du moment où l'homme se dit qu'il est tout seul, c'est sûr que ça provoque la peur. Enfin, le fait de se dire que, par exemple, après la mort, il y a quelque chose d'autre, de savoir que dans les moments difficiles, il y a quelqu'un qui nous protège, ça doit les rassurer.
Par rapport à la mort uniquement ?
À la mort, au fait qu'ils ne sont pas tout seuls à avancer sur la vie...
Quelle était la question première, tout au début, là, sur ce, Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que ce n'est pas essayer de répondre
oui,
à ça?
Oui, à mon avis, c'est aussi essayer d'y répondre. Mais je trouve qu'à partir du moment où on base quelque chose sur des affirmations, ça peut être nocif. Hein.
Et être guidé aussi.
Oui, il y a aussi ce côté-là. Enfin, la religion, il y a plein de côtés qui vont dans un sens plutôt positif, mais après, c'est voir ce qu'on en fait.
Et donc, on peut en faire quelque chose de positif.
Il doit y avoir moyen.
Quand tu dis être guidé, c'est pour aller où?
Vers la mort.
D'accord.
Ou vers le chemin de l'illumination.
Tarja, toujours. Hein.
Oui.
Et le titre?
Le titre était I Walk Alone.
I Walk Alone. Je marche seul.
Oui.
Pour revenir sur ta préparation, Chloé, tu n'avais pas quelque chose à rajouter sur cette musique. Hein. Je pense que tu n'avais rien retenu.
Non.
Mais bon, je trouve qu'à travers les titres de tes musiques, ça rejoint un peu les sujets de notre conversation, en tout cas, d'aujourd'hui.
On ne change pas sa marque de fabrication.
Mais revenons aux religions, parce que tu en as parlé longuement en préparation. Après, c'était donc ce que l'on a dit précédemment, c'est pour toi la religion, ça rassure et ça sert à guider, en quelque sorte, avec quand même quelques critiques assez négatives.
Oui, mais ça, c'est des choses que je pense et j'ai pas honte de le dire.
À l'école, tu es en religion, je crois.
Oui.
Tu t'attends à quoi dans un cours de religion? Tu t'attendrais à quoi? Voilà.
Eh ben, je m'attendrais qu'on se fout la case l'espace sur la religion catholique, sur Jésus, enfin, qu'on nous propose des manières de penser, mais qu'on ne nous les impose pas. Avant... Parce que c'est le genre, un prof, on conseille la religion du Christ, pas bien, tu vas d'or.
Et avant, tu avais un cours plutôt sur l'histoire des religions.
Oui.
Et tu peux m'expliquer la différence? Qu'est-ce que ça t'apportait?
Ben là, disons, on parlait de la religion bouddhisme, juive, enfin, on nous expliquait les modes de pensée, et là, c'était plutôt un enrichissement. On ne cherchait pas à nous faire approuver une doctrine ou n'importe quoi.
Et par rapport à toi, j'essaie d'amener les sujets avec ce que tu es. Tu es une adolescente de 15 ans qui a besoin de savoir, qui a besoin de grandir et avoir de l'information. Parce que quand tu me disais qu'il y avait des informations qui étaient presque... qui n'étaient pas dites ou contournées, et qui sont presque condamnables de la part de la religion. C'est ce que toi, tu me disais. Et notamment quand il y a des discours en Afrique.
Oui, mais en Afrique, le pape, il a un peu tous les droits, il peut leur faire croire n'importe qui, et eux, j'ai l'impression comme ils ont un accès plutôt limité à l'éducation, et qu'en général, c'est des communautés hyper catholiques. Enfin... Ils ont un peu perdu la faculté de réfléchir par eux-mêmes et de remettre en question les discours du pape, donc ça peut vraiment faire des dégâts.
Et tu crois que la volonté du pape, c'était de faire du dégât?
Non, mais...
Parce qu'il est conscient quand même de tout ça, des vraies problématiques, que ce soit le sida ou...
Non, lui, je pense qu'il essaie quand même de faire évoluer les choses, mais quand on voit ce que ça donne, ça, il ferait mieux de s'en abstenir.
On revient sur tes cours d'histoire des religions, justement. Je te posais la question, la différence, parce qu'apparemment, hein, pour toi, l'islam et le catholicisme, c'est d'un côté, et puis tu as le bouddhisme, mais il y a d'autres religions. Hein.
Oui.
Mais tu n'as pris que ces trois-là. Le bouddhisme, par exemple, qu'est-ce que c'est
Le bouddhisme, déjà, c'est pas une religion. Enfin, sauf, je pense, il y a un bouddhisme qui divinise Bouddha, et donc qui, lui, est une religion. Mais sinon, c'est plus un mode de vie, une manière de penser. Hein.
C'est un choix de vie dans la spiritualité, exactement ce que tu avais dit.
Mais disons, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas vraiment de doctrine. Non. Enfin, si, il y en a une, mais c'est... Ça, j'ai l'impression que c'est une des rares religions qui n'a pas fait de dégâts, qui n'a pas créé de guerre, ni rien. Contrairement à l'islam et au catéchisme.
Aux yeux d'une jeune fille adolescente de 15 ans, tu as des exemples de ce qui te semble être des dérives par rapport aux religions dans certains pays?
Ce qui me marque, c'est quand la religion est poussée à l'extrême. Enfin, genre par exemple en Iran, ou bien chez les talibans, l'islam poussé à l'extrême. On voit ce que ça donne, les femmes qui se font lapider quand elles se mettent du rouge à lèvres.
Hein. Tu crois vraiment à ça? Ça s'est vraiment passé? Je n'ai pas l'information.
Il y a quelques faits divers où c'est ça. Enfin, ça c'est sûr, c'est un peu exagéré, mais les femmes n'ont aucun droit. La condition de la femme, c'est aller joli réceptacle, va nous faire un enfant, et ton rôle s'arrête là.
Tu es plus attaché à la liberté.
Oui, la liberté de penser en tout cas.
Et à l'information, à l'éducation.
Oui.
Maintenant, nous allons revenir à l'imagination. L'imagination et les émotions par rapport à toi. L'imagination, c'est s'inventer une autre réalité.
Oui.
Est-ce que c'est parfois souffrir?
Eh ben moi, ce que je fais par exemple, disons quand il y a quelque chose qui me perturbe ou que je ressens une émotion négative... En général, dans mon cerveau, il y a toujours le remixage que je fais. Donc, émotion plus imagination, ça donne une peinture impressionniste.
Mais c'est aussi rendre les choses plus acceptables pour toi, avant qu'elles ne soient sur
papier.
Oui,
puis ça permet de s'inventer une autre réalité, de peut-être mettre un masque devant les horreurs qui nous entourent.
Et ces horreurs, dis-moi, Chloé, c'est aussi tout ce dont on a parlé avant?
Oui, entre autres.
Est-ce que ça fait partie de l'étrangeté du monde?
Oui, ben oui, je pense que la religion a aussi joué un grand rôle dans tout ça.
Mais essaye de te remettre dans un contexte présent, pour toi, hein, sans prendre l'histoire à témoin. Donc c'est pour toi. Parce que moi j'ai du mal à comprendre comment par exemple la religion, tu peux la trouver négative autour de toi.
Eh ben disons, elle enferme les gens dans une manière de penser, un mode de vie... Et au final, j'ai l'impression que la religion rend que moi.
Tu penses que la religion, enfin c'est ton avis, hein, mais que la religion, elle est très... La société est vraiment imprégnée énormément de religion, de religieux.
Oui, enfin... Quand je croise un catholique ou n'importe qui, je parle 10 minutes avec lui, j'ai déjà tout de suite compris qu'il n'était pas athée. Hein. Enfin, disons, je trouve qu'il y a cette espèce de foi naïve qui leur donne confiance, mais des fois, ça mène un peu à un grand n'importe quoi.
Mais est-ce que justement, ces gens ne sont... C'est un peu l'étrange, l'étranger, c'est avoir peur aussi et...
Oui.
Est-ce que tu crois qu'on ne communiquerait pas assez? Ne faudrait-il pas communiquer un peu plus? Ou dialoguer un peu plus?
On dialogue déjà assez et ça sert à rien. Au contraire, tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est nous contaminer. Donc je pense que c'est très bien comme ça.
Merci Chloé, c'est un peu... Voilà. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est pas évoluer, mais c'est de voir comment ce discours, oui, a évolué en toi. Et peut-être aller à la rencontre de gens qui sont peut-être professeurs de religion musulmane, je ne sais pas, pour essayer de nous expliquer tout ça. Pour essayer d'avancer et dialoguer, justement. Je te pose la question, pourquoi est-on sur Terre ?
C'est une bonne question. En fait, j'en sais rien. On pourrait aussi bien mourir, ça serait pareil. Hein.
Je te dis ce que tu m'avais dit. On n'en a rien à faire, ça ne sert à rien de vivre, rien ne sert à rien. Et puis, tu avais pris un exemple, et j'aimerais bien que tu le développes comme tu l'avais fait en préparation, c'est quelque chose qui ressemble à ce que l'on répond à l'enfant qui mange des épinards.
Oui, alors ça donne « mange des épinards ». Pourquoi ? Pour devenir fort. Pourquoi je dois devenir fort ? Pour plus tard réussir dans la vie. Pourquoi je dois réussir dans la vie ? Pour exister. Pourquoi je dois exister ? Et là, ça mène à un questionnement qui mène forcément à cette question « pourquoi on vit ?» Et en fait, on ne sait pas pourquoi on vit.
Et si on vivait pour essayer d'être heureux ?
À quoi ça sert d'être heureux ?
C'est quand même plus agréable, non ?
À quoi ça sert que ça soit agréable?
Ok, ça va. Et après la mort, c'est des sujets un peu, mais c'est pas pour être triste, c'est pour avancer. Tu m'avais parlé de... Parce que je t'avais posé la question, et comme tu le disais tout à l'heure, puisqu'on essaye peut-être d'y mettre du sens, tout ça, Dieu, ce serait peut-être aussi y mettre du sens. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais toi, ta conviction, je sais pas, mais ton impression, c'est que quand on va mourir, on va aller où?
Ben, j'ai l'impression qu'on reste sur Terre d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a... Oui. Allez, on pourrait appeler ça fantôme, mais je sais pas, il y a toujours une énergie qui persiste, j'ai l'impression. En tout cas, il y a certains lieux où, de temps en temps, je sens cette présence, quoi.
Dans quel lieu ?
Ben, les lieux, par exemple, aller pour faire dans le mouvement New Age une maison où quelqu'un vient de mourir, c'est sûr, on sent toujours que la maison est un peu imprégnée.
Le reste psychique, c'est ce que tu disais ?
Oui, enfin quelque chose dans ce style-là. Mais de toute façon, on ne peut pas porter d'affirmation ni rien. Si on veut savoir ce qu'il y a après la mort, ben c'est simple, il suffit de prendre un couteau et de se trancher la gorge.
Et dans notre conversation, on ne s'était pas dit Dieu, est-ce qu'il ne serait pas aussi un fantôme ?
Oui, ben, un fantôme qui flique tout le monde, qui a le savoir absolu, la vérité vraie, et qui nous suit 24/24. Même au WC, nous ne sommes pas seuls.
Mais la religion peut-elle cohabiter avec... tu m'avais dit, la religion peut cohabiter avec la science ?
Oui, sans doute, ça doit être possible. Enfin, disons, je pense que la science, elle apporte le comment, et la religion, le pourquoi. Même si le pourquoi, il est jamais prouvé de manière scientifique, vu que ce n'est pas scientifique.
Est-ce qu'on peut avoir une croyance personnelle ?
Moi, j'en ai une. Enfin oui, c'est comme je disais un peu, j'ai ma propre manière de voir la vie, de voir les choses, j'ai pas besoin d'aller piquer des idées dans les religions.
Et le bordel, c'est de devenir dépendant, c'est ce que tu m'avais dit.
Oui, parce que quand on a une religion, on devient forcément un peu dépendant à ça, à cette manière de penser. J'ai l'impression que ça enferme la personne dans une manière de vivre, dans une pensée, et que ça l'empêche un peu d'aller voir ailleurs.
Bien, merci beaucoup, Chloé. On arrive à la fin de ton travail. Je te remercie beaucoup de ta participation et de la richesse de tes propos. Et je vais te souhaiter vraiment d'avoir un parcours mais que tu souhaites, avec en toute liberté, et surtout que tu sois heureuse, même si tu n'y crois pas trop. Oh. Ça ne va pas, ça.
Ah non, laisse.
Non. C'est pas vrai. Non. Je te souhaite le meilleur, voilà. Et d'être la plus heureuse, voilà. Ça, je le dis quand même. Et on va se quitter pour accompagner justement tout ce bonheur. C'est Marilyn.
Manson.
Manson. Et le titre de cette chanson.
Sweet Dream.
Au revoir, Chloé.
Au revoir.
Et merci. Looking for something, some of them want.
a man who walks alone, and when I'm walking a dark road at night or strolling through the park, when the light begins to change, sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark, fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.